Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on reprend nos droits toute la semaine du lundi au vendredi de 18h à 20h. Bah, Roten sans flamme est là avec toute mon équipe, magnifique. Il y a encore une équipe de stars aujourd'hui, de luxe, comme tous les lundis, vous en avez l'habitude. On va débriefer la journée de championnat de Ligue 1 et puis on va anticiper aussi parce que la Coupe de France, ça repart déjà demain. Et oui, ça s'arrête jamais, le football, et tant mieux. On est là avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ah bah ça va, écoute. Ça bosse, on a plein de choses à annoncer ce soir.
On bosse. Grosse émission, c'est pour qu'on va faire vite sur le casting, vous le savez. Eric Dimeco, salut. La Casa Dimeco, elle est là.
Ah ouais. Salut Jérôme, salut Benoît, salut Dugas, salut à tous. Écoute, salut. J'embrasse les minots, les anciennes minots, l'épopée des minots 1980 que j'ai invité hier à la Casa Dimeco. Ah,
Marcel de
Falco. Ils sautent tous. Alors Marcel n'était pas là parce qu'il travaillait, mais bon, il y avait les capitaines. Il y avait tout le monde, Caminiti, Lévi.
J'ai vu la photo sur les réseaux sociaux.
Voilà.
Exact.
Donc, ils sont tous en forme et je les embrasse très fort parce que c'est une belle page de l'histoire de l'OM. Voilà, je suis content de les avoir réunis.
En tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup, mais c'est sympa, comme tu dis, ces initiatives-là de garder le contact avec les anciens. C'est,
exactement. Voilà.
Donc, vous étiez beau et jeune sur la photo, Eric.
Oui, on était là. C'est le principal.
Exactement. Et il y en a un qui est beau et jeune, un peu moins jeune, mais il a rajeuni depuis quelques semaines. Avec l'arrivée d'un nouvel enfant.
Ah oui.
C'est Christophe Dugarry, salut Dugarry.
C'est ça. Ah ouais.
Bonsoir,
lui, il vieillit pas. Il vieillit pas, il fout rien. Il fout rien de la journée.
Salut, pas de vieillir, ça, je fais rien, mais vous faites. Mais vous plaisantez, j'arrête pas. Je suis une machine, j'ai préparé l'émission aujourd'hui.
Ah oui.
Tout le week-end, c'est les matchs et tout. Mais attends, mais là, je vais être pointu ce soir.
Ah, bon, on a hâte de voir ça.
On a hâte de voir ça pour une fois.
Ah oui, c'est ça. Tu es très attendu, Dugarry, comme tous les lundis, comme Eric et comme Jérôme. Avec cet événement, vous en prendrez l'habitude désormais, tous les lundis à 19h30, Roten sélectionné. Et oui, la mise à jour de la liste de Jérôme Roten pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On fait monter la sauce dans Roten sans flamme, RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y a 3 changements dans le groupe France concocté par Jérôme Roten.
Ah.
Une vedette offensive est éjectée.
Crac. On l'a senti à sa première annonce, on a senti qu'il n'était pas convaincu.
Ouais, non, mais attends, si toutes les semaines il change d'avis sur les mecs, on va en avoir combien d'effectifs?
Trois changements, ça va, trois changements.
Parce que fais gaffe, Jérôme, fais gaffe, et si tu changes tous les jours de joueurs, tu vas finir à l'OM, toi.
Hein. Et on va en parler dans un
écoute,
instant.
Moi, on m'a dit que c'était les clés de la réussite.
Non, mais alors, si tu reçois un coup de fil avec un mec avec un accent un peu prononcé, ce soit pas Pablo.
Il va me proposer un poste.
Bon. C'est l'opération donc Roten sélectionneur, soyez là à 19h30. Autre opération qui démarrera lundi prochain. Avis de recherche. La semaine prochaine. Si vous êtes.
Qu'est-ce qu'on bosse?
Eh oui, on met en relation nos membres de la Dream Team et des personnes qui ont marqué leur vie ou si vous avez marqué la leur. Avis de recherche. Si jamais vous êtes un ancien prof de Pascal Olmeta, une ancienne petite amie de Jean-Michel Larquet, un ancien coéquipier de Christophe Dugarry ou les trois, vous réservez vos places au 32-16 et donc on organise ces rencontres. Avis de recherche la semaine prochaine, du lundi au vendredi.
C'est eux qui nous recherchent ou c'est nous qui les recherchons?
C'est nous, l'équipe de Roten sans flamme qui les recherchons pour vous.
C'est nous.
On va vous mettre en relation avec les gens qui vous ont côtoyé.
Moi, n'importe qui peut appeler, je me souviens de
ça.
Et le problème, c'est
il
toi.
Il peut raconter ce qu'il veut.
Mais du gars, toi, et il est là notre problème. C'est qu'il ne faut pas qu'on aille trop loin. Parce que.
Moi, j'ai peur que ce soit l'URSSAF qui te cherche.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Ça peut être un contrôleur fiscal, ça peut être.
C'est l'URSSAF qui te cherche à Bordeaux, le bar que tu avais ouvert.
Voilà, exactement. Donc, rendez-vous lundi prochain.
Tant que ce n'est pas les fournisseurs, ça va.
Avis de recherche. Grand Roten sans flamme, on l'a dit, Roten sélectionneur à 19h30. Allô Jérôme à 18h45. C'est la dernière ligne droite pour le mercato. Ça ferme à 20h ce soir. Fabrice Hawkins sera avec nous pour les toutes dernières infos. On vous parlera notamment de ce qui se passe à Rennes et le transfert hallucinant de Jérémy Jacquet vers Liverpool. plus de 70 millions d'euros. On va tout vous expliquer donc à 18h45. À 19h, on parlera de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que l'OL a un boulevard pour aller chercher le podium en Ligue 1? Et puis à 18h30, là aussi, grand procès. Il y a un courageux dans l'équipe de Rotten sans flamme ce soir. Une personne qui va dénoncer le totem d'immunité qui est accordé à Luis Enrique. Et voilà, il y en a marre. Est-ce qu'on peut critiquer un entraîneur qui a tout gagné? Rendez-vous 18h30.
C'est pas ça. Oh, Dugas, il va pas faire ça, Dugas.
Eh ben, on verra. Rendez-vous 18h30.
Tu vas pas faire quoi?
Allez, tu vas pas faire quoi? Bah, tu verras tout à l'heure. 18h05 sur RMC tout de suite. Toute cette instabilité marseillaise, ça commence à tendre, Eric.
La première chose pour apprendre à être plus stable, c'est d'embrasser l'idée de ne pas l'être.
Contre favorable peut-être pour l'OM, Chevalier, attention, le but marseillais.
Hier tu chattais, tu fanfaronnais, tu n'as pas voulu comprendre qu'avec les absences du côté du PSG, y avait match. Eh ben oui, bien sûr que tu es prétendant au titre.
Je m'observe, ah tiens, je suis stable, ah tiens, je le suis moins.
Le troisième but du club Bruges. L'OM éliminé pour un dénouement complètement irréel.
J'en ai marre, je me casse.
Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et là du coup ça devient non pas un combat mais un voyage.
Dès que t'as un joueur qui est bon, au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, ils ont disparu. Ils jouent pas, ou ils sont transférés, tu sais pas pourquoi.
Deserbi veut de la stabilité, lui il est instable.
L'exploration de travailler sur soi, ça devient une opportunité. Non plus d'être stable émotionnellement, mais d'apprendre sur l'humain.
C'est balle et cet enfant bat rentrant. Le jour sans fin pour l'Olympique de Marseille. Ils sont en train de creuser encore.
Moi, on est les connes de la soirée, quoi. Pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça, moi?
Là, je crois qu'on va pas être champion.
A priori, non. Haute tension tout le week-end à l'Olympique de Marseille. L'OM donc tenu en échec sur la pelouse du Paris FC samedi, 2-2. Les Marseillais ont pourtant mené 2-0. Ils ont pris 2 buts dans les 10 dernières minutes. La suite, c'est cette altercation entre des joueurs à l'entraînement. Mourinho qui lui est écarté par l'entraîneur Roberto De Zerbi. Ou encore des mouvements de joueurs en cette dernière journée de Mercato. La semaine est importante. Demain, c'est Marseille-Rennes en 8e de finale de Coupe de France. Et dimanche, c'est PSG-OM. Donc encore un grand rendez-vous qui attend les Marseillais. Florent Germain est là avec nous. Salut Flo.
Salut Benoît, salut à tous.
Roberto De Zerbi a haussé le ton, il a tensé ses joueurs en conférence de presse aujourd'hui.
Oui, il est quand même marqué, hein, toujours depuis Bruges, hein, très clairement ça se voit, ça s'entend, Roberto De Zerbi qui accuse le coup mais qui est quand même offensif. Il était très agacé déjà samedi après le match. Bon, il y a eu, vous l'avez sûrement vu, un décrassage imposé des exercices à ceux qui sont entrés en jeu, les remplaçants. C'est pas toujours le cas, ils l'ont vécu comme une punition, donc déjà c'était un peu un message. En conf, on sentait qu'il voulait pas tout dire, mais qu'il en avait gros sur la patate samedi en disant il y a des choses en gros à régler en interne et après je m'exprimerai. Et l'un des dossiers, ça a pu surprendre, c'est le cas Amir Mourinho. Il s'en est exprimé et expliqué aujourd'hui. Écoutez l'entraîneur italien au sujet du défenseur panaméen.
Et la question est simple, c'est que
l'erreur footballistique, je l'accepte, je le dis toujours, je le pense. Moi, j'en fais plus que tout le monde. Et il y a une chose que je veux voir chez mes joueurs qui est primordiale, c'est cette fin. Mourinho, c'est une bonne personne, je l'aime beaucoup, c'est un joueur très fort. Il comprend le sens de cette chose. Et ça ne vaut pas que pour Mourinho, ça vaut pour tout le monde. Qui n'a pas faim, qui n'a pas envie, ne joue pas.
Vale per tutti. Chi non ha fame non gioca.
Il est mis à l'écart jusqu'à nouvel ordre et pourtant il était titulaire contre Liverpool et contre Bruges. Hein. Donc c'est très récent et ça c'est bien De Zerbi qui l'avait choisi. C'était un joueur vanté pour ses qualités humaines aussi, souvent cité comme exemple par Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. Donc forcément ça peut surprendre. L'OM s'en sert peut-être comme un électrochoc, comme ce mercato et ce fameux chassé-croisé. Bakola, O'Reilly, Gomez vont être les derniers départs. Arrivée de Abdelli et d'un milieu nigérian qui évolue en Belgique, Nadi. Donc cette instabilité, ce sera aussi au cœur d'une réunion avec les supporters marseillais prévue tout à l'heure. Supporters face au staff, à des joueurs, aux dirigeants aussi. Donc il faut faire front. C'était le deuxième message de Roberto De Zerbi.
Merci Flo. C'est la une de Rotten sans flamme. L'instabilité, est-ce la principale cause de la crise à l'OM? 32-16, supporters marseillais pour participer avec nous. Jérôme.
L'instabilité, c'est la cause de toutes les crises et les dernières années de l'Olympique de Marseille dans cette inconstance. Moi, je l'ai reproché maintes fois depuis l'arrivée. Alors, je vais juste prendre les hommes qui sont sont en place aujourd'hui, depuis l'arrivée de Pablo Longoria, où il est passé à différentes fonctions à l'Olympique de Marseille, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait trop, c'est pas une impression, c'était un constat, qu'il y avait trop de changements, déjà d'entraîneurs, parce que les entraîneurs ils restaient un an et ils se barraient, après de joueurs, parce que trop de mouvements. Et donc, quand tu fais des bonnes saisons et que tu t'appuies pas sur ces bonnes saisons-là, collectivement, pour apprendre à se connaître, ce que De Zerbi a dit en conf de presse, en disant, ben oui, mais moi, si on me change tout le monde tous les 6 mois, c'est compliqué de tirer le max et tout ça. Mais il faudrait savoir, en fait. Alors, De Zerbi, toi, est-ce que tu as ton mot sur à dire sur le recrutement? Parce que moi, je pensais qu'il avait son mot à dire. Un entraîneur comme ça qui vient avec 9 adjoints, t'imagines quand même qu'il a son mot à dire sur le recrutement. Donc, il est aussi responsable, en quelque sorte, de cette instabilité. Après, il y a le fait.
Il laisse sous-entendre que non, parce que il est quand même adressé à ses dirigeants, quand même. Non, il leur met un tacle.
Mais du gars, donc je suis d'accord avec toi, mais sauf que ça va pas avec tout ce qu'on nous a présenté sur le rôle de De Zerbi. Il est venu avec 9 adjoints. T'imagines que le mec qui vient avec 9 adjoints, qui fait des pieds et des mains l'année dernière au mois de juin pour savoir s'il va rester ou pas, parce que après une année réussie, ils ont atteint les objectifs de la Ligue des Champions, mais je sais pas si je reste. J'imagine que les discussions, ça s'est pas passé juste sur le côté financier, à savoir je veux telle prime, je veux telle prime, je veux telle prime, sur l'évolution de son équipe. Donc lui aussi était en accord par rapport à leur discours au mois d'août à tous, et c'est pour ça que là moi ils m'ont attrapé en me disant ben oui, mais qu'est-ce que tu parles, tu me parles de cette instabilité, mais bon l'effectif, est-ce qu'il s'est amélioré ou pas? C'est pas la question par rapport à l'année dernière, si l'effectif est de meilleure qualité individuellement que l'année dernière. C'est juste que on a joué au football, on sait, dans un vestiaire, et Mehdi Benatia aussi, parce qu'il a passé de nombreuses années dans des groupes importants, dans des clubs importants, où il sait que la stabilité, c'est la gage de réussite. La gage de réussite, elle est là dans la stabilité, au moins garder les trois quarts de l'équipe. Après, tu peux faire des corrections quand t'es pas content de l'attitude de certains ou la progression de certains. Si t'as l'opportunité de renforcer ce groupe qui est déjà stable, il y a pas de souci. Mais là, dans ces cas-là, c'est pas 15 mouvements, 16 mouvements ou 17 mouvements ou 20 mouvements ou 30 mouvements. C'est 3-4 tous les ans, et comme ça t'arrives à progresser, à garder les joueurs qui t'ont permis d'atteindre des objectifs très élevés, ce qui était le cas de l'OM l'année dernière, et après de continuer à construire, et puis tu greffes. Vous imaginez quand même comment tu veux que t'es un entraîneur. Il est ce qu'il est, De Zerbi, on l'a critiqué, je vais pas passer mon temps toujours à le critiquer, d'accord, et moi je suis déçu de sa progression et ce qu'il apporte réellement à Marseille et au football, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Mais une fois que t'as dit ça, comment on peut nous expliquer que là au mercato d'hiver, donc en gros t'as 5 arrivés. Oui. Donc 5 arrivés, c'est la moitié d'une équipe. Alors je te dis pas qu'ils vont
5 arrivés, et sur le mercato, depuis que le mercato est ouvert, il y a eu quoi, ça va faire 6 ou 7 départs avec ceux qui vont
partir. Mais c'est ça qui est incroyable.
Non, ça en fera 9 en tout.
C'est non, mais
parmi lesquels des joueurs qui sont arrivés l'été dernier, hein. Donc
oui, oui. Gomez, bon, après c'est pas des joueurs majeurs à part on peut les donner rapidement, hein. Mopet, Mougueux, ouais. Blanco, Lirola, il y en a certains vous aviez même oublié qui Robinho, Vaz, Bacola, ça ce sont des dossiers effectivement intéressants parce que c'est des jeunes qui auraient pu éventuellement percer, mais bon les sommes sont quand même importantes, hein. 22 millions pour Vaz et 10 voire un peu plus même pour Bacola. O'Reilly, Angel Gomez et Ulysse Garcia.
Mais là tu peux pas, et moi je finis là-dessus et je veux entendre Duga et Eric, mais tu peux pas continuer de la sorte à prendre des joueurs, à nous le présenter au mois de juillet, août, en nous disant ah ouais, c'est les grands joueurs, vous allez voir ce que ils font, une ou deux bonnes perfs, tout le monde dit ah ça y est, c'est futur pépite, c'est cela, et 6 mois après les mecs ils sont dehors, ils sont ils veulent pas progresser, ils sont pas tournés dans le sens du collectif, donc on va changer, on va reprendre d'autres. Non, mais t'imagines quand même, mais c'est un bordel monstre en fait. Donc moi je suis désolé, mais ça, avec ça tu peux pas avancer, quelle que soit leur raison financière ou pas, tu ne peux pas avancer.
Duga, est-ce que l'instabilité, c'est la principale cause de la crise?
Moi, je suis fatigué, sincèrement, l'OM me fatigue. C'est le cirque Pender. Non, mais moi, sincèrement, là encore, j'écoute ce que nous dit De Zerbi. Voilà, donc cette fois-ci, c'est la faute à Murillo. D'accord, ok. Donc c'est toi qui l'as titularisé sur les deux matchs les plus importants de la saison. Et après, c'est sa faute. Et après, tu dis que s'il n'a pas faim, le mec, qui dégage comme les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'il n'a pas faim? Qu'est-ce que ça veut dire? Parle-moi football. Qu'est-ce que ça veut dire? En début de semaine, on t'avait pas entendu après ce qui s'est passé en Belgique. Tu nous as expliqué, si on change 7, 8, 10 joueurs, si on continue à faire la chasse aux sorcières, il est difficile de devenir compétitif pour ce que Marseille veut et mérite. À mon avis, il faut laisser du temps aux joueurs
de créer une cohésion entre eux. Mais tu es le centre même de cette cohésion qui n'existe pas en changeant d'organisation, de composition d'équipe, de tactique systématiquement. Même les joueurs, ils savent plus. Au bout d'un moment, on dit les joueurs, c'est des mercenaires. Mais c'est vous qui les faites partir systématiquement. Comment tu veux que le joueur s'identifie au projet? Là, encore une fois, ils vont prendre deux joueurs. Bon, peut-être trois, je sais pas comment ça va se passer. Mais de toute façon, qu'ils soient bons ou pas bons, à l'arrière, on s'en fiche. De toute façon, chaque fois qu'il y a un joueur de l'OM qu'on nous annonce comme quoi c'est un phénomène. Et comme quoi,
ça
c'est
fait quatre, bon, du gain. Nouaneri, Timber, voilà, Nadi et Abdelli. Ouais.
Voilà. Alors, chaque fois, on nous dit c'est un bon coup. C'est un très bon joueur. Bon, très bien. Et trois mois après, il va partir. Soit il va plus jouer, soit il va partir. Donc, écoute, je sais pas. Moi, ce qui m'agace, c'est le double discours, encore plus que le reste, le double discours systématique de l'entraîneur, des dirigeants. Moi, je trouve ça juste insupportable. Chaque fois, c'est l'effet, c'est ce qu'ils disent. Ce qui se passe, c'est l'effet inverse de ce qu'ils annoncent. Donc je comprends aujourd'hui la colère des supporters qui vont aller demander des explications. Il va y avoir une réunion, mais je la comprends très bien. Où va l'OM? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? C'est quoi la stratégie? Chaque fois qu'il y en a un qui la ramène, qui dit quelque chose, qui explique un projet, qui vient gentiment ou pas d'ailleurs, énervé ou pas, à un micro ou en conférence de presse, il se passe une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois après, le contraire de ce que les mecs ils ont dit. Voilà, je suis abasourdi, je suis effondré, voilà, pour ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. C'est un cirque permanent et moi De Zerbi, je comprends plus. Donc écoute, continuons comme ça. Moi je suis comme Jérôme, hein, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur De Zerbi. Voilà, il est encore là, il va nous amuser, il va nous faire rigoler, même si de moins en moins, parce qu'il m'agace profondément, mais voilà, qui reste, et puis c'est très bien comme ça. Mais je peux plus, j'ai même plus envie de dire du mal de lui, tellement c'est affligeant. Une nouvelle fois, le mec il s'en prend à Murillo, ouais, c'est le seul problème que t'as trouvé. Ouais,
c'était son homme de base, il allait manger chez lui, ouais. Il adorait il y a quelques semaines, ouais. Et maintenant c'est lui.
Avant d'entendre Eric, Flo, on confirme donc la réunion de supporters avec les supporters ce soir pour la direction marseillaise.
Ouais. Avec les joueurs, quelques joueurs.
Les joueurs aussi, mais
quelques
ils jouent
joueurs
demain,
ils sont. Ouais, quelques joueurs y seront. Quelques joueurs y seront. Le staff, des dirigeants, je ne sais pas encore lesquels. Alors c'est une réunion qui avait été demandée après l'élimination de la Ligue des Champions et qui, bon, de mon humble avis, est quand même importante dans le sens où demain il y a un match où ça pourrait être tendu. Je pense qu'il y aura des banderoles, des sifflets, bon, une ambiance, et c'est pas la première fois qu'il y en aura une. Et d'ailleurs, le Vélodrome est plutôt clément ces dernières saisons, donc s'il y a quelques mouvements de contestation, bon, on peut aussi le comprendre, hein. Mais bon, avant un match décisif, je pense que le club avait quand même à cœur de désamorcer un peu la chose et de rencontrer les leaders de groupes de supporters, et ce sera fait tout à l'heure.
Eric,
c'est intéressant ce que tu dis. Désamorcer quoi? Ils s'attendent à quoi?
Par rapport à l'ambiance, en fait, du gars.
Ouais, mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils voudraient un soutien total à ce qu'ils font?
Non,
à la mauvaise performance face à Bruges, à la mauvaise performance face à Liverpool.
C'est pas ça,
face
du gars, si les supporters demandent un rendez-vous, je ne suis pas du tout surpris que le club l'accepte dans ces conditions-là, ouais. Parce que ça aurait rajouté de l'huile sur le feu. Ah oui. Si le club avait dit non, on veut pas vous voir. Là, imaginez l'ambiance. Et je pense que dans un stade où là, j'ai fait le point, il y aura 60 000 supporters, ce sera pas plein à craquer, mais quasiment. Vu le contexte, il est quand même important de rencontrer les leaders de groupe qui sont influents en virage. Voilà. Donc, honnêtement, du gars, je pense que si l'info se confirme qu'il y a des joueurs, ça veut dire que le club n'a pas non plus une envie ultime de protéger le groupe. Oui. Et qu'à un moment donné, il faut les mettre face à une certaine responsabilité. La réalité de Marseille, c'est parfois aussi de rencontrer les groupes. Parfois, parfois ils sont surprotégés, je pense, les joueurs. Et peut-être que de temps en temps, ça leur fait du bien de se faire bouger un petit peu aussi, peut-être.
Ah d'accord, j'ai connu ça, la commanderie, on est reparti avec la maison, avec une voiture qui a pris feu.
Je pense pas quand même. Ça a changé.
J'ai connu ça après une défaite. Saint-Étienne, Marseille, Saint-Étienne-Marseille, où on en prend 5 et on organise le lendemain une réunion dans la commanderie avec certains supporters qui arrivent très 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 énervés, où ça a été très très loin, beaucoup trop loin, et ça.
Non, mais il y en avait beaucoup de supporters, toi, quand ça s'était passé, du gars.
Oui, il n'y avait seulement les représentants.
Clair, faut pas qu'il y ait de débordement et tout, mais simplement, vu que la demande a été faite par les assos, je pense que le club a voulu accéder.
Vas-y, Eric.
Écoute, quand j'ai lu l'intitulé du débat, l'instabilité est-elle la principale cause de la crise Et là derrière, tu peux mettre à l'OM, tu peux mettre au gouvernement, tu peux mettre l'instabilité. C'est la cause même de toutes les crises en réalité. Ça peut être de la crise économique, l'instabilité économique, de la crise. Je comprends pas votre débat. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'instabilité tous les mercatos et l'explication aux mauvais résultats de l'OM des derniers jours ou des dernières semaines. C'est ça, parce que sinon, moi, je te réponds oui pour tout. Je te dis oui, et pour l'économie, et pour la guerre, et pour le machin. C'est l'instabilité, ça amène la crise quoi qu'il arrive. Par contre, pour moi, l'instabilité n'est pas la raison des mauvais résultats de l'OM ces derniers jours. Pour moi, c'est pas ça. Les joueurs sont là depuis 6 mois. Moi, tu ne m'enlèveras pas de l'idée que ce que j'ai vu, puisque j'étais pas avec vous. Alors en plus, je crois que je vous ai pas écouté le lendemain du match contre Bruges.
Ah ouais, c'est bien dommage.
Mais oui, non. C'est toujours dommage de pas vous écouter. Mais je ne peux pas tous les jours, malheureusement. J'ai des pizzas à faire, donc. Donc, après le match de Bruges, je sais pas ce que vous en avez dit, mais moi, je veux bien. Qu'il y a eu beaucoup de changements à l'été, que le coach fait trate de composition d'équipes différentes. Je veux bien tout et tout a une responsabilité dans ce qui peut se passer. Sauf que moi, quand on m'explique que dans le vestiaire, on a expliqué aux joueurs, attention les gars, Bruges, d'entrée ça va rentrer dans la viande, d'entrée ça va mâcher, et que tu prends 2 buts en 10 minutes, c'est la faute de quoi? De l'instabilité cet été? C'est la faute de quoi? C'est la faute parce que ils ont trop travaillé? C'est la faute parce que les supporters?
C'est la faute d'une ambiance collective.
Non, mais ça
c'est terminé, Eric. Après il reste 80 minutes où il se passe rien non plus.
Et donc samedi après-midi, c'était samedi après-midi le match, c'est ça? Ouais, oui. Oui, 17h, oui, c'est samedi. Et donc samedi après-midi, pendant 80 minutes, tu roules sur le Paris FC, je vais vous dire la vérité. À 10 minutes, un quart d'heure de la fin, j'avais un apéro, je suis parti, il gagnait 2-0. Le Paris FC arrivait même plus à sortir le ballon. Le Paris FC arrivait même plus à sortir le ballon des 18 mètres, on est d'accord? On a vu la même chose. Donc je me suis dit, bon, mais ça y est. Et donc, expliquez-moi. Ce qui c'est. Alors on va me dire les changements, les machins. Oui. Et donc vous m'expliquez.
Non mais sur le PFC, t'as raison.
Chaque fois qu'on t'explique un truc, tu dis oui, mais.
Si vous m'expliquez que les 5 qui sont rentrés, ils sont pas capables de garder 2-0. Ah ben alors on s'est trompé sur le.
Mais en quelque sorte tu valides la stratégie, Eric.
Tu les fais repartir systématiquement.
Bah oui,
Eric.
C'est que tu t'es trompé.
Mais là le problème. Bien sûr.
Mais alors. Pour revenir au débat, parce que moi l'intitulé ne voulait entre guillemets rien dire.
Il recentre les choses.
Il j'ai pas recentré, mais bon c'est pour amener la discussion. Maintenant. Les gars, 5 ans, 6 ans, 150 mouvements, aller et retour, c'est parce que c'est d'abord on avait identifié que c'était un gros problème et on avait identifié que c'est un gros problème depuis un long moment, souvenez-vous, puisque j'ai fait une sortie en début de saison sur ce sujet-là au point que maintenant le club me boude parce que j'ai dit comment j'arrive moi à m'identifier une équipe alors que je suis entre guillemets amoureux footballiste ou en tout cas amoureux de sa saison, en tout cas pleinement satisfait de la saison de Rabiot. Pour moi, Rabiot, c'était le mec qui te faisait passer le cran au-dessus, parce que lui, souvenez-vous quand même les débats qu'on a fait l'an dernier sur Rabiot. Un jour, on a fait des débats parce que Rabiot, dans le vestiaire, il avait gueulé après les mecs parce que ou à l'entraînement parce que les mecs se laissaient aller. Vous vous souvenez de ça?
Ils
s'étaient laissés aller dans un match où ils s'étaient laissés aller à l'entraînement. Il avait fait une sortie et donc où on avait dit ouais pour qui se prend. Mais c'est ça le haut niveau. Et peut-être que si lui, il avait été là cette année, à 10 minutes de la fin, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé samedi.
Ou le début du match.
Ouais, ou alors, oui. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que ce constat-là, on l'a fait.
Oui.
Je vous le dis, moi, j'avais dit, comment vous voulez que je me le supporte? En plus, je me faisais, ce soir-là, je me faisais porte-parole de mes potes, parce que tu penses bien que mes potes, quand ils ne sont pas contents, ils m'envoient des messages, dont j'en reçois 200. Et les mecs, c'est des supporters, pas d'il y a 4 jours.
Ils comprennent les débats,
c'est des supporters. Oui, ils comprennent tout, t'inquiète pas. Et donc, et donc les mecs ils me disaient mais comment c'est possible que on se sépare toujours des mecs qui qu'on a aimé, qui ont bien représenté le club, qui voilà. Donc ça c'est un vrai problème. On nous avait promis que c'était fini, mais là où c'est étonnant les gars, c'est que vendredi le coach fait une sortie en disant on peut pas avoir de la stabilité mais et travailler ça. Comme il faut aussi un truc. Donc ça veut bien dire malgré tout. Parce que je ne peux pas croire. Alors oui, il y a l'histoire Murillo aussi qui est gênante parce qu'il mangeait chez lui.
C'était ben son oui.
Fils, parce que son
oui.
Fils. Mais ça veut bien dire malgré tout que le recrutement.
Il faut pas beau être copain de deuxième.
Ouais, non,
je
l'ai dit tout
à l'heure. Je l'ai dit que ça se passe bien.
Ah, il faut pas. Ouais.
Ouais. Rabiot, c'était son fils.
Si on peut apporter une précision juste, Eric, parce que Florent a assisté à la conférence de presse, il a expliqué justement pourquoi il y avait autant de mouvements et il a dit notamment il y a des choix techniques, donc footballistiques, et des choix financiers aussi dans les mouvements des joueurs.
Oui, il a dit.
Donc c'est pour ça que.
Non, vas-y, Eric. Non, juste pour préciser, il l'a dit par rapport au fait que, si on prend l'exemple de Matt O'Reilly aussi, on est sur un. Alors là, c'est pas exactement un aspect financier, c'est plus que Matt O'Reilly était prêté, voilà. Alors que les joueurs qui vont arriver
vont
appartenir à l'OM.
Donc,
et après, multiplier les mouvements, on va pas se le cacher. Pour un club qui est parfois ric-rac financièrement, au niveau de son budget, DNCG,
Surtout,
tout ce qui
s'ensuit. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec la Ligue des Champions, là.
Ça permet aussi d'étaler dans le temps des paiements. Et très clairement, il n'y a pas uniquement un enjeu sportif. Je pense qu'il n'a pas détaillé cela, Roberto De Zerbi. Mais on peut vous le dire, quand tu prends un joueur sur 4-5 ans, tu étales son paiement. Et donc, finalement, financièrement, tu t'en sors mieux. Donc, c'est aussi une ficelle qu'utilise beaucoup l'Olympique de Marseille.
Non, mais c'est une ficelle. C'est une ficelle qui n'est pas viable pour avoir des résultats constants sur la durée.
La ficelle de menacer ses joueurs, ceux qui n'ont pas faim, ils s'en vont, ils dégagent. Mais c'est alors qu'il y a des mouvements de tout le temps, tous les trois mois ou tous les six mois.
D'ailleurs, c'est plus le cas Murillo dont tu fais part là, Lucas. Et ouais. On va pas se le cacher, c'est le cas Murillo qui est plus embarrassant parce que si je vous donne les noms, je les ai donnés tout à l'heure, de ceux qui vont partir.
Raison,
bon, je suis pas sûr, Jérôme, que Ulysse Garcia ou Ruben Blanco.
C'est vrai, mais t'as raison.
C'est plus le cas Murillo, le cas
Gomez au début de saison, le cas Montpellier
où tu te dis à un moment donné, bon, ce double discours.
Non mais Flo,
à un moment donné, le coach élevé.
Le problème à la limite c'est même pas ceux qui partent puisque tu as raison, c'est des seconds couteaux qui étaient plus utilisés, mais ça veut dire que malgré tout tous les 6 mois, puisque tu as des arrivées qu'il va falloir intégrer, donc ça veut dire que tous les 6 mois le pauvre coach, parce que on comprend bien que il a pas toutes les clés sur le recrutement et que il subit un peu le recrutement, ce qui est pour moi une circonstance atténuante pour le défendre, en tout cas ça amène de, enfin on peut le défendre grâce à ça. Ça veut dire que tous les 6 mois, le coach est obligé de reconstruire. Donc là, ça veut dire qu'il va être obligé de reconstruire
en milieu
de
terrain,
il va être obligé d'une animation facile.
En plus, Flo.
J'espère qu'il y a une assurance sur le flocage des maillots.
Flo, t'as raison de parler des départs, Ulysse Garcia, ça, parce que ces mecs-là étaient en échec. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est tu vends ces joueurs-là, mais quand tu prends d'autres joueurs. Quand tu prends le cas d'Abdelli, je te dis pas que c'est un mauvais joueur, Abdelli. Il jouait à Angers. Tu sais que de Angers à Marseille, il y a
Il est sûrement meilleur qu'O'Reilly, hein.
Non, mais ils sont toujours meilleurs. Sauf que t'as pris Timber.
Ouais.
D'accord? Donc Timber, j'imagine quand même que c'est pour le faire jouer, Timber. Donc qui t'appartient? Donc Timber, Hojbjerg, s'ils jouent comme ça, tu te dis, les deux, c'est eux qui ont joué ce week-end. Bon, pour jouer le championnat et la coupe, je pense que c'est pas mal. Après, s'il y en a un qui est suspendu, tu peux en mettre un autre.
Attendez, vous êtes sûr que De Zerbi n'est pas au courant des arrivées et des départs? Mais vous êtes sérieux là?
Ah, mais moi je pense que non. Moi je pense que non. Au courant.
Bien sûr que non. Arrêtez, c'est une circonstance atténuante. À l'arrivée,
il a subi. Non, j'ai pas dit qu'il n'était pas au courant. Du gars, j'ai pas dit qu'il était pas au courant, j'ai dit qu'il le subit.
Mais oui.
C'est pas mal,
le subis. Non, mais si tu le subis, mais ils ont pris Timber, ils ont pris un meilleur joueur, ils ont pris le mec d'Arsenal, à chaque fois ils lui prennent soi-disant un meilleur joueur, et le meilleur joueur, il devient mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oui,
à chaque
vrai.
Fois qu'il
non,
arrive, il nous le dit. Mais non, mais je parle pas de là, mais les autres, quand même, le nombre de fois où on nous a dit à l'OM, bonne pioche, ils ont fait un bon coup, mais bonne réussite. Mais même nous, les premiers, on l'a dit. Même nous, ça nous paraissait être une bonne idée. Bon, il y a plein de mecs qui sont venus à l'OM.
Toi, tu as dit que c'était une bonne idée. Toi, tu as dit que c'était une bonne idée de remplacer Rabiot et Rogier par O'Reilly et Vermeiren, toi.
Mais Vermeiren,
on les connaissait pas.
Vermeiren, rassure-moi, c'était une réussite, non, au départ, non?
On a dit au départ, c'est peut-être une bonne idée. Il y en a eu plein comme ça. Et à l'arrivée, ça fait pchit. qui s'entraîne avec deux Zerbi et c'est terminé. Ou dès qu'il joue trois matchs, c'est terminé.
Il joue à Marrakech avec un maillot floqué à Egan Rayler.
Ah, le problème, c'est qu'il doit parler de flocage à chaque fois. Merci Florent d'être venu et tu nous tiens informés de ce qui se passe à Marseille. Demain, c'est Marseille-Rennes, 8ème de finale de la Coupe de France.
Soyez à l'affût parce que d'ici 20h, il peut encore y avoir.
Il y a un nom qui revient avec insistance et je vois vos messages sur le numéro WhatsApp. C'est Pablo Longoria qui subit beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux d'RMC. Donc lui aussi, c'est un nom qui est souvent cité lorsqu'on parle d'instabilité à l'OM. Dans un instant, on parle du PSG et on va faire le procès de tous ceux qui accordent un totem d'immunité à Luis Enrique. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h33 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme. Elle commence maintenant avec Christophe Dugarry, Eric Dimeco comme tous les lundis, avec Benoît Boutron comme tous les jours. On est là jusqu'à 20h avec 18h45 Benoît.
Fabrice
Hawkins qui sera là pour les infos. Il
termine à 20h.
Il a du boulot. Il a du boulot. Et il a mis la chemise blanche. Je peux te dire qu'il transpire.
Il a été très fort sur les dossiers prioritaires.
Pas dormi de la nuit, vu la tête. Alors, je ne sais pas s'il a fait que bosser
à 18h40.
Ou autre chose.
Mais il a un enfant en bas âge. Dugas, c'est ce que c'est.
Je crois qu'il a rejoint quelques joueurs du PSG qui sortent.
Allez, on y va. Parlons de Luis Enrique tout de suite.
RMC, Roten sans flamme.
Pourquoi dès le départ l'OM champion de ce projet?
Personne n'a dit ça.
Si, ils l'ont dit dès le départ. Ils l'ont dit.
Je veux voir. Je veux voir la déclaration noir sur blanc.
Tu mens.
Non, c'est toi.
Il a dit on veut rivaliser.
C'est une légende urbaine.
On veut rivaliser.
C'est toi qui veux mentir
avec le Paris Saint-Germain.
Non, pas du tout.
Tu mens. C'est pas vrai. Tu le sais que c'est la vérité.
Le procès de Roten sans flamme.
Qui a menti? Qui a menti? On saura jamais. On saura jamais. Et peut-être que vous allez régler vos comptes sur ce procès-là.
C'est
Luis Enrique. Est-ce qu'on peut critiquer un entraîneur qui a tout gagné? Encore une performance moyenne du PSG hier soir. Victoire 2-1 à Strasbourg, à 10 contre 11 parce que Hakimi a été expulsé. Encore des choix difficiles à comprendre. D'ailleurs, Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont démarré sur le banc. Dembélé, sachez-le, il a fait 12 matchs de Ligue 1 cette saison, seulement 5 titularisations. Il a été blessé, mais quand il est disponible, souvent il démarre sur le banc. Plus globalement, Paris est leader de Ligue 1, mais Paris est déjà sorti de la Coupe de France et Paris n'est pas qualifié pour le top 8 de la Ligue des Champions. On ouvre donc le procès de tous ceux qui accordent un totem d'immunité à Luis Enrique. Un procureur courageux, c'est monsieur Eric Dimeco. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats pour Luis Enrique. Maître Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et maître Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis c'est un supporter parisien qui va trancher ce procès. Tariq, au 32-16. Salut Tariq.
Bonsoir messieurs.
Salut Tariq, ravi de te retrouver.
Bonsoir.
Eric, vas-y, prends ton courage à deux mains et vas-y.
Il y a pas de courage. Moi, j'ai été commis d'office par Pierrot Dorian, hein, qui attaque la gestion du recrutement et de l'après finale de Ligue des Champions du PSG régulièrement. Donc, il m'a dit défends mon propos. Donc, à la limite, moi, juste la question que j'ai à poser à nos amis, puisque je sais ce qu'ils vont nous dire, c'est juste à partir de. Je veux qu'ils me donnent une date à partir de quand on pourra le critiquer du coup.
Ah.
Voilà, ça c'est très important. Je veux quand même qu'il me donne une date et juste.
Je vais pas être trop long.
Je vais vous laisser. Vous pourrez faire une heure parce que moi je vais faire deux secondes. Donc je veux savoir la date à partir de quand on peut le critiquer. Et je veux savoir pourquoi du coup il préférait faire les barrages pour faire plus de matchs. Mais quand il a plus de matchs, il met les mecs au repos. Donc il faut juste que vous m'expliquiez ça parce que j'ai pas compris ce week-end. Il a mis les mecs trucs au repos. Voilà, je vous laisse.
Tu comprends très bien le De Zerbi, beaucoup moins le Luis Enrique. C'est bizarre, c'est à géométrie variable.
Moi j'ai rien dit, j'ai pas attaqué.
Très bonne question du procureur.
Je veux savoir à partir de quand Pierrot Dorian qui m'a missionné pour truc, à partir de quand Pierrot pourra critiquer Luis Enrique.
Alors, monsieur Dugarry.
Alors non mais moi on a le droit de le critiquer tous les jours, tout le temps. Tout le monde est critiquable. Voilà, tout le monde se trompe et tout le monde est critiquable. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Que Luis Enrique n'arrive pour l'instant pas à trouver la bonne formule pour relancer son équipe, pour redynamiser son équipe, pour faire retrouver à son équipe les qualités qu'on l'a vu faire. C'est à nouveau des changements qu'on a du mal à comprendre avec des joueurs en forme, en méforme. On comprend pas tout, mais ça, c'est de Luis Enrique dans le texte. Voilà. Donc Jérôme, qui avait déjà tout compris depuis qu'il est arrivé, il va peut-être nous expliquer. Mais une fois que je t'ai dit ça, tout le monde est critiquable, j'ai pas de problème avec ça. Mais dire qu'il a un totem d'immunité, c'est la réalité. Et heureusement qu'il a un totem d'immunité. Autrement, il n'y a plus de valeur à rien. Le mec, il a gagné une Ligue des Champions. Il a pratiqué le meilleur football du monde. Il a fait fermer son clapet à plein de gens, à moi le premier, qui le critiquait, qui voyait pas où il voulait en venir, voilà. Après, moi, j'ai pas que le côté terrain qui fait que je j'apprécie pas ce monsieur. Mais bon, voilà, tout ce qu'il a fait, bravo, chapeau bas, t'es un champion, t'es le meilleur. Voilà, donc moi, j'ai pas de problème avec ça.
Tu dis ça parce que tu l'as connu, Dugas, je précise, tu l'as connu dans le vestiaire à Barcelone.
Voilà, moi, je l'ai connu dans le vestiaire à Barcelone. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. Moi, j'ai d'autres critères qui font que j'apprécie pas le personnage. Mais bon, c'est pas grave. Mais après, il a un totem, et heureusement, il faut aussi donner de la valeur aux choses. Ce qu'il a réalisé, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, il a un totem d'immunité. Excusez-moi.
Mais jusqu'à quand, alors, pour que Pierrot,
justement,
Pierrot, il m'a demandé une réponse.
Est-ce qu'un totem d'immunité peut, avec tout ce qui s'est passé, à l'intersaison, avec la fatigue, les joueurs, le choix du recrutement, qui est certainement un mauvais choix. On a déjà fait les débats à ce niveau-là d'avoir recruté qu'un seul joueur de champ. Je pense que c'est une erreur qu'ils ont commis. Est-ce qu'un totem d'immunité, quand t'as révolutionné le football, comme il a fait au Paris Saint-Germain, peut durer un peu plus que 5 mois ou 6 mois. Alors moi, je vais te dire quand, Eric. Je vais te donner une date précise.
Ah. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour Pierrot. Hein. Pierrot, il m'a demandé
c'est quand, alors Pierrot, je lui dis, à la fin du championnat, fin de la saison, on pourra juger si Luis Enrique a failli, et les autres aussi. On pourra chacun apporter son jugement. Voilà, mais moi, je pense que pour l'instant, on lui accorde beaucoup de crédit.
Et ce crédit sera le 31 mai 2026.
Voilà. Eh bien voilà, non, mais là, Pierrot, voilà. Et moi,
Jérôme.
Pierrot, il est prêt à attendre.
Votre avocat de Luis Enrique, alors. Est-ce qu'il a un totem? Est-ce qu'on peut le critiquer un
peu? Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec Dugas. Le totem d'immunité, il est allé se le chercher. L'année dernière, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Luis Enrique, que c'était un bon à rien, qui servait à rien. C'est vrai, c'est la plupart.
Donc
la
quoi
plupart,
qu'il se passe jusqu'à fin mai, on dirait.
La plupart des gens allaient loin, très loin dans les critiques. Et quand ils n'avaient pas gagné, et que l'équipe elle ronronnait, je pense qu'en effet la critique il en faisait ce qu'il voulait, mais les gens avaient le droit de critiquer. Mais même encore aujourd'hui, t'as le droit. Le seul problème, c'est que quand tu critiques un entraîneur comme lui, qui a tout gagné et qui a poussé au max le niveau du Paris Saint-Germain tout au long de l'année dernière, c'est que lui, il va se rappeler au bon souvenir, si tu veux, des premières critiques qui disaient oui, mais ce qu'il fait, ça peut pas fonctionner. Avec lui, tu ne peux pas gagner et tout ça. Il a montré à tout le monde qu'avec lui et avec ses méthodes, il pouvait gagner. Donc cette année, en effet, moi là où je vais dans son sens, bien sûr que les matchs, et on est les premiers à le dire, on les suit, on les regarde tout le temps, moi je vais tout le temps au Parc des Princes, je vois, on se rend compte en effet que le PSG est beaucoup plus en difficulté cette année, même contre des adversaires moyens, voire mauvais, que l'année dernière, quand ils rencontraient des grosses équipes.
T'as la prestation d'hier encore.
Mais la prestation d'hier, les gars, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que t'as un adversaire aussi. L'adversaire, il est très bon. Non, mais attends. Alors moi, si vous me dites qu'à chaque fois le PSG doit mettre, comme en finale la Ligue des Champions contre l'Inter, 4-0 à toutes les équipes, ok, là, on va le critiquer parce que c'est pas le cas. Mais hier, avec les moyens du bord, parce qu'il y a ça aussi. Ce que je veux dire, c'est que entre les blessures, entre les mecs qui ont du mal à repartir, entre les mecs qui physiquement ils sont moins bien, parce que la réalité,
falloir quand même un bon match de 90.
Oui, mais sauf que Dugas. Aujourd'hui, je suis d'accord.
Je le critique, j'ai pas de problème.
Mais on peut critiquer, mais il faut mettre le pied sur le frein, parce qu'aujourd'hui, ils sont premiers de Ligue 1, ils ont perdu 2 matchs. Oh mon Dieu, 2 matchs en 20 matchs. Waouh!
2 matchs de Ligue 1.
Non, mais 2 matchs de Ligue 1 en 20 matchs. En 20 matchs. D'accord? Donc, excuse-moi, même s'ils sont en difficulté, ils gagnent souvent les matchs avec des équipes qui sont très jeunes. À l'image du match d'hier où même à 10 contre 11, ils gagnent. En Ligue des Champions.
Le contenu, il n'est pas là.
Il n'est pas bon.
Il n'est pas bon.
Mais il n'est pas.
Ne cherchons pas des
excuses.
Non, il n'y en a pas. En expliquant que la Ligue 1 est extraordinaire.
Mais Dugas, ce que je veux dire, c'est qu'en Ligue des Champions, et la preuve, on a été tous les deux à le dire, le match de Newcastle, on se disait là.
Mais même Luis Enrique le dit qu'il n'est pas content de la performance.
Mais tu as raison. Oui, mais c'est là que je te dis qu'il a un totem d'immunité de ce côté-là, parce que en plus je le trouve très cohérent dans ses analyses de match. Le match d'hier, il te le dit. Mmh. Il dit on fait une mauvaise première mi-temps parce que on peut avoir une possession, la possession de la balle, mais on a une possession très basse sur le terrain. Mmh. Et on est en difficulté. Et je pense que le score aurait pu être à l'inverse parce que Strasbourg méritait plus que nous. Ok, donc il est logique. Il dit la première mi-temps, elle est pas bonne. Bien sûr qu'il en veut. Alors il y a de la jeunesse, il y a des mecs. Regarde juste. Quand t'es un entraîneur, Eric, en plus toi, tu défends De Zerbi par rapport aux joueurs, tu les mets en avant.
Allez, mais
sur le match d'hier, à part les jeunes, en effet, mais encore Mayulu, je l'ai trouvé meilleur. Mbaye, c'est encore trop tôt sur un match de cette dimension-là. Et je finis là-dessus. Mbaye, c'est un peu trop léger pour l'instant pour commencer un match. D'accord, c'était trop difficile. Neves. Hier, il est sur le terrain. Neves, il s'est blessé, re-blessé. Tu vois un Neves qui, physiquement, ouais, il est pas au top.
Ouais.
Zaïre Emery est très bon. Pourquoi ? Il est très bon en ce moment. Parce qu'il enchaîne les matchs. Hakimi, il a été moyen. En plus, il prend un rouge. Les seuls, aujourd'hui, qui te permettent au PSG de surnager et d'avoir des résultats, mais c'est pas collectivement la force qu'on ressentait l'année dernière, c'est les hommes de base de l'année dernière qui, eux, ont jamais été blessés. Et je te prends Pacho, ouais. Vitinha, Nuno Mendes. C'est heureusement vrai. Qu'ils l'ont, Nuno, ouais. depuis le début de l'année, parce qu'il est incroyable encore sur le match d'hier. Mmh. Donc ces trois-là, allez, si tu veux, suffisent pour l'instant au bonheur des Parisiens. Mais ça sera insuffisant pour la match de Ligue des Champions. Et je finis juste en disant que si, en effet, les barrages ou un huitième de finale, ils sont sortis de la Ligue des Champions parce qu'ils ne dégagent pas la force de l'année dernière, là, en effet, le totem d'immunité, il s'arrêtera et on pourra dire que Michel Rouquet a raté son année.
Ok. Tariq, désolé, qui remporte ce procès ? Est-ce que c'est Eric ou Duga et Jérôme ? Même si on ne sait plus où est Duga exactement.
Non, moi, je représente
Pierrot. J'ai l'impression qu'il s'est arrangé Duga avec Eric, mais sinon...
Vous mélangez.
Sinon, victoire de Christophe et de Jérôme. Parce que pour moi, il y a un petit peu d'ingratitude sur les critiques qu'il y a sur Luis Enrique, parce que ça reste cohérent, les compositions d'équipe, les matchs, et c'était quelque chose d'attendu. Moi, pour moi, c'est vraiment là où Paris Saint-Germain pêche, c'est physiquement. Mais on a un sélectionneur qui a un totem d'immunité depuis 10 ans, et c'est pas au bout de 5 mois qu'on va enlever le mérite de Luis Enrique, le petit totem d'immunité qu'il a, parce que ça reste exceptionnel ce qu'il a fait la saison dernière. Et ça reste quelque chose d'attendu pour ceux qui suivent le Paris Saint-Germain, pour les supporters. Ça reste quelque chose d'attendu ce qui se passe ces 6 premiers mois-là, que ça soit physiquement, que ça soit en termes de niveau de jeu. C'était quelque chose qu'on attendait, qu'on redoutait. Après, en fin de saison, on pourra faire le bilan, mais pour l'instant, on est en plein temps et faut être patient.
Ok, Tariq, tu donnes la victoire à Jérôme et à Duga. Merci, ouais, Tariq. Tu rappelles quand tu veux parler du PSG.
On a battu Pierre Dorian.
Dans un instant, le mercato show, Fabrice Hawkins, les dernières infos mercato.
Oh, c'est
notamment
chaud, c'est chaud.
Tariq complètement dingue pour Jacquet qui va signer à Liverpool et le Stade Rennais qui va empocher un magnifique chèque. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h48 sur RMC. On est là dans Rotten sans flamme avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h. Après 19h, on va, Benoît.
Rotten se chauffe, on va parler de l'Olympique lyonnais. Est-ce que l'OL a un boulevard pour aller chercher le podium de Ligue 1? Mais surtout 19h30. Rotten sélectionneur.
Ah, et là.
La liste de Jérôme qui a évolué.
J'ai attendu.
Trois changements dans le groupe en une semaine.
Les joueurs. Non, est-ce que je ne change pas
une
d'avis. C'est mais c'est une liste élargie.
Pas le ballon d'or, quand même.
Bah, tu verras.
J'ai pas mis de réserviste parce que j'aime pas ce mot-là. Tu vois, réserviste, ça veut rien dire. Donc j'ai un groupe élargi et là il y en a qui réintègrent la liste.
Allez, l'événement du soir, c'est la fin du mercato d'hiver à 20h. On accueille donc tout de suite Fabrice Hawkins.
RMC, Rotten sans flamme.
Ce n'est pas facile. Trouver des joueurs pour notre idée.
Oui.
Il faut être attentif à tout.
Tiens,
à les personnes, à l'argent. Ce n'est pas comme aller acheter à...
Pizza chez...
Allô Jérôme.
Chez Casa Dimeco.
Pourquoi pas. Fabrice Hawkins est là. Salut Fab.
Salut les gars. Salut Fab.
Fab le roi des infos RMC Sport. Pas mal d'infos en cette fin de journée.
Ça bouge sur
les
cannes de bière.
Mais surtout, rappelle-nous le transfert de l'hiver. Là. C'est incroyable.
C'est...
Jérémy Jacquet, 18 matchs de Ligue 1. Vendu 70 millions d'euros.
Ouais, 72 même exactement. 72. 60 millions d'euros de fixe et 12 millions d'euros de bonus. Un transfert record pour le Stade Rennais. Pour le comprendre, il faut comprendre et expliquer surtout la concurrence qu'il y avait dans ce dossier avec deux clubs anglais qui sont vraiment tirés la bourre. On a longtemps cru qu'il allait filer à Chelsea, qui était vraiment à fond dessus, qui a fait plusieurs offres, qui a dépêché aussi une équipe, une délégation à Rennes pour essayer de convaincre le joueur et le Stade Rennais. Et finalement, Liverpool, un petit peu en embuscade, ils ont réussi à travailler, à discuter avec l'entourage, à convaincre le joueur aussi dans un projet où il y a moins de défenseurs centraux qu'à Chelsea.
Il y a de la concurrence quand même.
Il y a de la concurrence, mais
Chelsea
a 5-6 défenseurs centraux et certains ont à peu près le même âge que lui. Donc pour lui, c'était aussi plus intéressant à ce niveau-là d'aller à Liverpool. Et donc ils sont arrivés à un accord. Donc il va signer, c'est un pré-accord puisqu'il va signer en juin 2026, donc dans 5 mois, un contrat jusqu'en 2031 avec un an en option pour la somme que tu as dit tout à l'heure. C'est donc 60 millions d'euros en fixe, plus 10 millions, même 12 millions d'euros de bonus.
Incroyable. Jacquet, 72 millions d'euros, qui va être prêté à Rennes les 6 prochains mois. Donc,
Il n'est même pas prêté à Rennes, en fait.
C'est-à-dire
que c'est un pré-accord. Il va signer, le contrat va entrer en vigueur à partir de juin.
Et c'est impossible de casser un pré-accord ? Il va forcément s'engager à Liverpool.
Imagine,
il se blesse.
Ah bah après, c'est un pré-accord, donc je pense que.
Après, sur des montages comme ça, on n'a jamais vu un pré-accord qui est cassé.
Oui, bien sûr.
Non mais vu les montants, Jérôme, c'est bon.
Il y a un an, Rennes est allé le chercher à Clermont. Il était en Ligue 2, il appartenait au Stade Rennais, il formé à Rennes.
Bravo.
Habib Bey a dit reviens parce que j'ai besoin de toi. Et là, un an plus tard, il est
des génies les Anglais de donner autant de. Après, il y en a qui ont certainement le pif, mais j'espère qu'ils vont avoir le bon pif parce que 70 millions avec les bonus un peu plus.
Je récupère les agents là, mon pote.
C'est incroyable. Rigole pas. Je crois que l'agent de Jacquet, il a dit je prends ma retraite.
Non mais Jérôme, sincèrement, ce n'est ni faire offense au joueur qui, sincèrement, il est pour rien le gamin. Vous êtes le meilleur, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais quand t'as des pigeons, et bravo à Rennes, ils arrivent à trouver un pigeon comme Liverpool. 70 millions d'euros.
Manchester United, ils avaient envoyé 70 sur Lyon.
Très bien, regarde le résultat, il est super. C'est bien qu'il continue.
Ils ont beaucoup d'argent, mais c'est aussi ce football à deux vitesses entre des clubs qui peuvent payer 70 millions d'euros pour des remplaçants.
C'est un joueur qui file en Arabie Saoudite, il signe à Liverpool quand même. Donc
c'est pas un foot à deux vitesses, c'est un foot qui perd la tête. Arrêtons d'essayer de faire croire. Non mais arrêtons d'essayer de faire croire que ça a eu une justification. Ça n'a aucune justification.
Bah non, mais bien sûr.
C'est pas parce que tu as de l'argent, des milliards et des milliards, beaucoup plus que les autres, que tu es obligé de faire n'importe quoi. Les milliards ne vont pas avec la folie, même si souvent ça a souvent une corrélation quand même. N'essayons pas d'expliquer aux gens que ça peut avoir une valeur. Et même le petit Jacquet, le pauvre, ça va lui mettre toute la pression de ce transfert. Oui. Et même lui, le pauvre gamin, qui est certainement un très bon joueur, mais il va arriver avec une chape de plomb et qui va faire que ses performances seront
regardés
différemment
Fabrice Dugas a raison
n'essayons pas nous qui sommes qui observons et qui connaissons un peu le football d'essayer de justifier que c'est parce qu'ils ont de l'argent parce que ça n'a aucune valeur je sais pas ce qui se passe le pourquoi
c'est l'offre
et
la demande c'est ridicule,
là où je rejoins Dugas Fabrice, c'est qu'au bout de 18 matchs de Ligue 1, bien sûr qu'il a montré des choses intéressantes, sinon il ne serait pas transféré en Angleterre. Mais en fait, il faut faire la part des choses. Ce joueur-là, 18 matchs de Ligue 1, il vient de Clermont en deuxième division. Clermont qui a failli descendre plus. Donc on ne peut pas dire un Clermont tu vois, qui a fait une année incroyable. Donc ça veut dire que Jacquet, en 18 matchs, il a pris une valeur monstrueuse. C'est pas possible, du moins ça n'existe pas. Et en effet, pour le gamin, ça ne doit pas être facile à gérer. Alors tant mieux pour lui, s'il y arrive. Mais moi, ce que je veux dire, et tu l'as dit, c'est un pré-accord. Donc ça veut dire qu'il partira au mois de juin. Il va finir l'année avec Rennes. Mais t'imagines quand même que même pour lui, c'est pas pas facile parce que là, il va être observé avec le mec qui coûte 70 millions. Même lui, je vais te dire, parce que on l'a vécu, mais avec d'autres sommes. Mais on a toujours vécu où t'as tendance à t'envoler quand t'es sur le terrain, préparer des matchs. Quand ça devient dur.
Mais il est où son stress?
Peut-être. Quand ça devient dur, ce que je veux dire, c'est que l'exigence, c'est ce qui te fait progresser. Quotidien, de la remise en question, écouter ton coach, écouter tes coéquipiers, écouter ceux qui ont plus d'expérience, tu vois. Et ben, peut-être qu'au d'un moment, et ce qui est logique, ce que je veux dire,
c'est vouloir triompher à Liverpool, et devenir un des meilleurs défenseurs du monde.
Je te dis pas qu'il est pas ambitieux. Je te dis juste que les 4 mois qu'il va passer à Rennes, par moment, si ça devient compliqué, parce qu'il a pas que des cadors avec lui et une équipe qui est sur courant alternatif, on le voit, les résultats en ce moment, ils sont pas bons. Et ben, la remise en question, elle aura peut-être du mal à se faire et que les prochains mois, ils peuvent être compliqués pour lui. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, tant mieux pour lui, il en profite, il va découvrir un des meilleurs clubs au monde. Écoute, tant mieux s'il joue et s'il s'éclate là-bas, moi je le félicite. Voilà.
Ouais. Eric, tu voulais réagir à ce montant, à cette folie justement, les transferts?
Non, mais moi je suis d'accord avec c'est l'offre et la demande. Moi je compare le football aux voitures de collection. C'est l'offre et la demande. Donc si tu as 3 mecs qui veulent une vieille voiture qui est très rare, ben ils sont capables de payer des millions. Et là c'est pareil. Et voilà. Donc
sauf qu'il est pas très rare, Jacquet.
Pardon?
Jacquet, il est pas très rare, Eric.
Ah bah il doit être considéré comme très rare s'il va aussi cher.
Il doit être considéré comme rare.
Mais l'équipe, non mais arrêtons les gars, on regarde les matchs tous les week-ends. Si Jacquet il est considéré par très rare, c'est qu'il y a un mec, il a un problème aux yeux.
Dans sa génération, il fait partie des meilleurs du gars. Mais je comprends ce que tu veux dire sur le prix.
Mais les mots ont un sens. Il fait partie des meilleurs. On ne dit pas que c'est un nul. C'est un très bon joueur.
Mais aujourd'hui,
c'est 18 matchs en Ligue 1, il est rare. Faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas.
Mais malheureusement, c'est le prix aujourd'hui.
On l'avait vu avec Lenny Yoro, on a vu Saliba qui avait été vendu cher. Enfin, il y a plein de défenseurs centraux français qui ont été vendus très cher en première ligue. Là, le montant est exorbitant et il a moins prouvé.
Et ça
va
de plus en plus cher.
Mais c'est vrai qu'il est plus jeune aussi. Il a 20 ans. Fabrice,
il va se retrouver dans la liste, lui, non?
Ah bah on verra.
Là, à 70 millions, ils m'ont fait transpirer aujourd'hui. Ah, j'ai dit merde. Si je le mets pas, je vais passer pour un con.
C'est bon ça. Fabrice, est-ce qu'on surveille d'ici 20h? Il y a des dossiers chauds qui vont aboutir ou pas?
Oui, on va surveiller ce qui va se passer en Arabie Saoudite, mais on en reparlera tout à l'heure avec notamment Karim Benzema, N'Golo Kanté, Youssef.
Alors, les podcasts de Rotten Sans Flamme, histoire folle en Arabie Saoudite.
Pour poursuivre un petit peu tout ça et savoir si Karim Benzema va réussir à signer à Al Hilal, lui qui est actuellement à Etihad. À Lyon, ça bouge un petit peu avec Roman Yaremchuk, ça y est, il a été officialisé, il arrive de l'Olympiakos et il va signer en prêt avec option d'achat, il a signé même puisqu'il a été officialisé. Il y a Noam Kamara, le jeune défenseur central du Paris Saint-Germain, qui devrait prendre la route, lui aussi de Lyon, d'ailleurs il est entre Paris et Lyon actuellement, il faut vite qu'il passe sa visite médicale et qu'il signe avant 20h. À Lille, ça bouge aussi parce qu'il souhaite faire un attaquant. Alors il y a Gaëtan Perrin qui va très probablement rejoindre le LOSC, le milieu offensif de Krasnodar. Et puis Rennes aussi qui a eu des pertes, on parlait de Jérémy Jacquet, il y a eu aussi Kader Meïté, et ils aimeraient recruter Arnaud Nordin qui reviendrait en Ligue 1.
Ah, l'ancien Montpellier.
Exactement.
Ok, merci Fabrice.
Ce qui est génial quand même à l'Arabie Saoudite là, c'est je croyais que les grosses équipes elles appartenaient à la même personne.
Ah bah
donc le mec il s'achète.
Là on n'a pas le temps mais on va le raconter en podcast. Jeu de chaise musicale en Arabie Saoudite pour les droits d'image etc et les vedettes.
C'est le même propriétaire.
Tu écouteras le podcast de Rotten sans flamme mais c'est une histoire.
Il a raison du gars mais là aussi.
Ils ont tellement d'oseilles qu'ils se font des kiffs. Le mec il se fait des kiffs. Je l'achète celui-là. Je le vends.
Vas-y.
C'est toujours propre pour moi.
Exactement.
C'est plus facile pour toi.
Écoute toi, je te
passe de la poche gauche à la poche droite.
Écoute, t'auras pas ça comme salaire mais par contre, oui, à Al Hilal t'auras ça.
Allez, on parle de Lyon dans un instant. N'oubliez pas Rotten. Ah, sélectionneur des 19h30 sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.